à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Radio Gustave, la web radio du lycée Eiffel. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marine.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
La radio a bien évolué depuis la première émission, que vous pouvez toujours écouter en podcast. Au sommaire, aujourd'hui, une grande rubrique cinéma contenant trois sujets différents, en particulier l'interview de Radu Mihailianu, réalisateur de l'Histoire de l'amour, que nous sommes allés voir en avant-première en octobre.
Quel est le deuxième sujet ?
Les élèves sont allés interviewer les enseignants de découverte professionnelle. Nous avons également un reportage sur l'EPI des 3PT1. Ils montrent le projet d'une micro-entreprise sous la direction de Madame Wojcicko.
Et pour le troisième sujet,
nos enseignants de matière générale vont expliquer un point de leur cours. Cela nous servira pour réviser pour le brevet.
Et pour finir,
il y aura également des rubriques personnelles dans lesquelles des élèves parleront de leur passe-temps ou leur passion.
Voilà un beau programme. Je pense qu'il est temps de lancer la première rubrique. Radio Gustave, c'est parti. Entendre la bande-annonce de l'Histoire de l'amour, un film de Radu Mihailianu que nous avons rencontré le mardi 11 octobre grâce à une masterclass organisée par France TV Éducation. Radu Mihailianu est un réalisateur célèbre, notamment grâce à ses films Train de vie, Va et vie devient, Le concert ou bien encore La source des femmes. Il a eu la gentillesse de nous présenter son nouveau film en avant-première. Nous avons abordé différents thèmes avec lui, le prix des films, le tournage, sa passion pour son métier de réalisateur, le choix des sujets, l'écriture du scénario. Et nous allons d'ailleurs commencer par les raisons pour lesquelles il a adapté ce livre de Nicole Cross, L'Histoire de l'amour, et de la façon dont il l'a fait.
Donc, moi j'avais lu le livre, il est sorti le livre, il a été publié en 2006. Quand je l'ai lu, j'ai chialé comme une madeleine, moi j'ai pas honte de le lire. D'accord ? J'ai beaucoup rigolé aussi, parce que déjà le livre, il était assez drôle. Mais à l'époque, j'ai pas pensé en faire un film. Parce que ça se passe beaucoup à New York, je me suis dit que c'était trop cher et que j'y arriverais jamais. Et il y a 3 ans, il y a 2 producteurs que je connaissais qui sont venus me voir. Ils avaient les droits du livre, m'ont dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc j'ai relu il y a 3 ans et je me suis dit surtout il y a 3 ans que d'une part, donner un peu d'amour au public, ça ne ferait pas de mal. Et en même temps, je voulais poser la question avec ce film, est-ce que nous, on est encore capable de ça ? Est-ce qu'on est capable de l'amour que ce vieux monsieur porte à cette femme et que cette femme lui porte ? Est-ce qu'on est capable ? Et est-ce qu'on est capable, comme la jeune adolescente, à se battre jusqu'à obtenir le vrai amour et pas juste un like ou 2 mois de relation naze ? Est-ce qu'on peut ? Et moi, je crois qu'on peut. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce film.
Les histoires d'amour, ça dure pas. Regarde autour de toi.
Si tu l'aimes, Léo, tu dois la laisser s'en aller. Les Allemands sont à 300 km d'ici.
Léo, je t'épouserai. À New York. Promets-moi que tu viendras.
Je te le promets.
Puis l'amour, ça existe que dans les livres.
C'est totalement faux.
Alma,
Alma Mereminski a vraiment existé. L'amour est vrai.
T'aimes vraiment, mais ça m'étonnerait qu'elle te le dise parce qu'elle est fière.
Un jour, tu la rejoindras.
Comme vous venez d'en entendre dans cet extrait, Radu Mihailianu aborde le sujet de la Seconde Guerre mondiale dans ce film, notamment des Juifs exterminés par le régime nazi. Mais il explique que ce n'est pas le plus important et en finit par un message d'espoir.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la religion juive. C'est des destins humains et la capacité des gens d'aimer. Après, dans un contexte historique où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens ont dû être séparés parce qu'ils étaient juifs, mais pas religieux, parce qu'ils étaient juste juifs. Et ils ont dû être séparés. Et la question, c'est comment, humainement, on arrive quand même à s'aimer quand on est séparé. Mais ils auraient pu être japonais ou chinois ou et juste dire qu'ils ont été séparés. Ce n'était pas une question de religion. C'était leur destin. et leur capacité de devenir merveilleux. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai envie beaucoup de dire ça, puisque la société devient dure et que les gens ne sont plus ensemble, de dire nous sommes tous merveilleux. Et nous avons la capacité d'être merveilleux. Et que ça, il ne faut pas qu'on laisse tomber. Parce qu'il faut qu'on reste soudés et qu'on fasse confiance. Le film parle de ça. Faire confiance dans l'amour et dans l'amour que l'autre peut nous donner et que nous, on peut lui donner.
Après cette note d'optimisme, Radu nous explique que le contexte historique du livre et du film sont réels, mais que l'auteur a ensuite inventé une histoire. On l'écoute.
À l'époque, il y a des gens qui ne pouvaient pas partir. Pas parce qu'ils ne savaient pas que l'horreur allait arriver. Ils n'avaient pas l'argent pour le train, pour le bateau, pour y arriver. Donc ils ne pouvaient pas juste partir à pied, ils ne pouvaient pas traverser l'océan à pied. Donc les contextes historiques sont réels. Après, c'est une fiction, c'est-à-dire elle a inventé des personnages, mais sur des bases réelles.
Le réalisateur nous explique aussi avoir rencontré l'auteur avant d'adapter ce livre en film. Il nous dit donc ce qu'il en a pensé.
J'ai rencontré l'auteur et il doit avoir vu le film hier, mais je n'ai pas de nouvelles. Et je l'ai rencontré avant de commencer à adapter. Et c'est une femme extraordinaire, adorable. Drôle aussi, très drôle.
On continue cet entretien avec un côté plus technique, dans lequel Radu Milayinanu nous explique le temps qu'il a mis pour adapter un livre et le transformer en scénario.
J'ai dû mettre, pas tout seul, j'ai écrit avec une amie qui s'appelle Marcia Romano. On a mis 6 à 8 mois, je crois. C'est ni court ni long, c'est un temps à peu près normal.
Mais on peut s'interroger. L'histoire est-elle exactement la même dans le film que dans le livre?
L'histoire, c'est quand même grosso modo ça. Mais il y avait beaucoup dans le livre de l'histoire du traître au Chili. Et j'ai inventé un personnage qui n'existe pas dans le livre, c'est Zoé. Parce que dans le livre, elle écrit un journal intime, tout ça. Et je me suis dit qu'au cinéma, on peut s'endormir. Donc je préférais lui inventer une copine avec qui elle se chamaille tout le temps. Et qui lui dise un peu toutes les vérités. Et j'ai un peu plus écrit de dialogues drôles par rapport au livre.
Quand je suis très occupé, tu me déranges là. Figure-toi que je pose nu.
Tu es trop moche, tu leur fous le cou en l'air. Pire, tu vas les traumatiser à vie.
Le cinéaste raconte donc la vie des autres, mais on peut s'interroger à travers ses films, raconte-t-il sa propre vie?
Oui, mais je me cache. C'est-à-dire, je crois que beaucoup d'artistes font semblant de raconter les histoires des autres. Par exemple, Va vie et deviens. C'est l'histoire d'un enfant qui était en Éthiopie pendant la sécheresse. Et c'est l'histoire comment sa maman le pousse à aller sans elle pour être sauvé en Israël. Parce que là-bas, il va survivre. Et donc, bien sûr que j'ai raconté l'histoire de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas éthiopien, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, je ne connais pas a priori tout ça. Derrière ça, il y a quand même un peu mon histoire. Parce que j'ai quitté un jour la Roumanie, pareil, laissant mes parents et mon frère derrière, ne sachant pas si j'allais pouvoir les revoir un jour, etc. Donc là-dedans, c'est un livre, c'est pas du tout mon histoire, mais le monsieur, c'est mon père à 200%. Mon père, il est comme ça, il a survécu à tout, il a 95 ans, il vit toujours. Je me demande, mais comment tu fais pour avoir encore cette énergie et ne pas être triste, parce que ça va quand même vers la fin. Et il dit, non, la vie aime ceux qui aiment la vie. Et pour moi, ça, c'est une leçon. Et donc, Léo, pour moi, c'est mon père. Donc, pareil, je me cache derrière une histoire, mais je raconte beaucoup l'histoire de mon papa et qui me concerne aussi. L'immigration, j'ai immigré, s'adapter à un autre univers, parler une autre langue, etc.
Pour un film, l'argent est très important. Radu Milayinanu nous explique pourquoi c'est autant nécessaire.
Le film, tout compris, acteur, scénario, tout le tournage, les voyages, 15 millions d'euros. Qui est un budget assez important pour un film français. Oui, un film c'est cher, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur celui-là. Je n'ai pas compté, mais on doit être dans les 600 personnes. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une usine.
Pour ces films, Radu Milayinanu a besoin d'un élément essentiel, les acteurs. Il nous parle donc des acteurs célèbres avec qui il a déjà travaillé. Le tout avec humour.
Question très intéressante. Est-ce que dans les prochains films, j'aimerais travailler avec les grands acteurs? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, je n'ai pas travaillé avec des grands acteurs. D'accord? J'ai travaillé avec des nazes. Bah si, c'est ce que tu veux dire. Brad Pitt, Mais Brad Pitt rêve de travailler avec moi, je lui dis non tout le temps. Non mais attends, déjà reprenons depuis un moment. J'ai travaillé avec Mélanie Laurent, Leila Bekti, Roche Dizem, Gad Elmaleh, vous connaissez ?
Oui.
Ah.
Puis le cinéaste nous parle plus précisément des acteurs présents dans l'histoire de l'amour.
Dans ce film, il y a quand même trois stars. Gemma Arterton est une grande star, elle a fait un James Bond. Elliot Gould, le vieux Bruno, c'est une immense star, peut-être pas complètement pour votre génération, mais il a fait une série cultissime qui s'appelle Friends. Il a fait une série de longs métrages très connus qui s'appelle Ocean 11, 12 et tout ça. Donc c'est un grand acteur américain. Et le monsieur qui fait Léo, c'est un grand acteur de théâtre, donc ça c'est normal que vous connaissiez.
Pour conclure sur les acteurs, il évoque ses exigences envers eux avant d'expliquer l'intérêt de travailler avec des acteurs déjà connus. Écoutons-le.
Donc pour l'avenir, je travaillerai toujours d'abord avec des très bons acteurs. J'adore travailler avec des très bons acteurs. Qu'ils soient stars ou pas, il faut qu'ils soient un peu stars parce que sinon on ne peut pas financer les films. Quand les partenaires vous donnent aussi de l'argent, ils ont besoin d'acteurs aussi un tout petit peu connus. Donc Brad Pitt, je crains que non. Je l'adore, mais je n'aurai jamais de sujet pour lui.
Nous sommes ensuite intéressés au tournage de son dernier film et nous lui avons notamment demandé combien de temps celui-ci avait-il duré et les lieux où il avait tourné.
Donc, tournage effectif, 11 semaines. 11 semaines. Mais un film, c'est, disons, la moyenne, c'est 7-8 semaines, des films normaux. Et on a tourné sur 3 pays. On a refait une grande partie de New York à Montréal, ce que font maintenant beaucoup d'Américains, parce que c'est moins cher. Et on a tourné à New York 2 semaines. Et on a refait le village polonais et Chili en Roumanie, parce que pareil, c'est moins cher.
Puis Radio Milaïlanou enchaîne en nous expliquant comment il choisit son équipe de tournage.
Je travaille beaucoup à l'étranger. J'aime beaucoup prendre aussi des gens à l'étranger, de pays où j'arrive. Mais j'ai quand même des amis, ce que j'appelle une garde rapprochée dans les postes importants. Mon chef opérateur, c'est celui qui fait l'image. Mon assistant, qui est mon bras droit. Celui qui fait le son, décor, costume. Et ce qu'on appelle le directeur production, c'est celui qui gère un peu. Et eux, ils comprennent beaucoup plus vite ce que j'ai dans ma tête. Ça va plus vite, ça économise de l'énergie. Mais après, j'adore découvrir des gens dans chaque pays. Et après, pour ce film, y a plein de gens qui m'ont aidé. Des producteurs, les financiers, qui ne sont pas là juste pour donner l'argent, qui lisent votre scénario, donnent leur avis, on retravaille avec eux. Donc tout ça, c'est des partenaires. C'est des, parfois, même souvent, des amis. Parce qu'avec, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai maintenant des amis qui me suivent sur des films. Donc c'est un métier, le cinéma, très collectif.
Nous l'avons également interrogé pour savoir comment il se comportait sur un plateau. Voici sa réponse.
Je suis rarement sérieux tout le temps. Sauf quand je suis très énervé. Il peut m'arriver rarement d'être très énervé sur un plateau parce que il n'y a pas tous les éléments dont j'ai besoin pour faire la scène. Là, je peux m'énerver, mais bon, ça dure une heure maximum. Je ne peux pas ne pas déconner de temps en temps, même souvent.
Pour savoir comment il réagissait aux critiques sur ses films, nous lui avons posé la question. Le réalisateur nous a alors expliqué comment il faisait pour dépasser celle-ci et pourquoi il aimait autant son métier.
Il y a des gens qui n'aiment pas le film. Donc parfois, ça me fait du mal. Parfois, heureusement qu'il y en a d'autres qui aiment. Parfois les films marchent très bien, donc je suis heureux. Parfois ils ne marchent pas, donc je suis moins heureux. Donc voilà, mais après, comme dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Il y a des journées où tu es heureux, d'autres malheureux, mais tu continues. Sur le tournage, c'est pareil. Il y a des jours où tu as l'impression que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Tu es malheureux et après, quand tu vois les images, tu dis « Ah, c'est pas si mal quand même ». Et l'autre jour, tu es heureux. Mais ce n'est pas grave, puisque tu fais ce qui te passionne. J'adore ça. Donc moi, le seul travail, le seul truc qui me fait réveiller à 6 heures sans être fatigué, où je travaille toute la journée en kiffant, c'est ce métier-là. C'est écrire, c'est faire la mise en scène, avoir plein de potes autour de moi avec qui je fais des films, après voyager comme ça, rencontrer des gens. C'est, et encore une fois, n'imaginez pas qu'on est tous milliardaires. Je ne gagne pas extraordinairement, je gagne bien. Je ne suis pas pauvre, mais ce n'est pas l'argent qui est mon moteur. Mais j'ai une vie sublime. Donc à la fin de ma vie, je dirais, j'ai été heureux.
Pour conclure cette masterclass sur l'histoire de l'amour, un élève a posé cette question à Radu Mélanie.
Vous avez déjà rencontré le vrai amour?
Oui, c'est toi. Ah, je t'ai mis la honte.
Une réponse drôle de la part du réalisateur qui vient chérir une matinée forte en émotion et que les élèves ont apprécié. Ils ont d'ailleurs envie de recevoir ce réalisateur sympathique et qui, facétieux, leur a également posé une question.
Vous me réinvitez? Bon, alors je refais.
Vu l'enthousiasme des élèves qui le remercient tous d'avoir pris le temps de les rencontrer, on peut dire que Radu Mélanie est le bienvenu quand il le souhaite au lycée Gustave Eiffel.
Maintenant, Maëva, Louise et Marine vont vous parler du film Le Secret de la Licorne, adapté des bandes dessinées d'Hergé. Quelles différences ont-elles vues et quelles versions ont-elles préférées ?
Dans le livre, l'histoire commence du marché où Tintin trouve la licorne et décide de trouver le capitaine afin de percer le mystère de la licorne. Tandis que dans le film, le spectateur est lancé dans l'intrigue du pickpocket du marché, puis seulement après, il décide de chercher la licorne. Les différences du livre et du film sont flagrantes. Par exemple, dans le film, les Dupont arrivent dès le début, alors que dans le livre, ils arrivent le plus tard. L'histoire se déroule différemment et le cours des choses se passe d'une autre forme. Personnellement, nous avons préféré le film car c'était bien.
Merci Maëva, Louise et Marine. On passe d'un dessin animé à un film que nous sommes allés voir en novembre, Les Combattants.
C'est dans le cadre de l'opération Lycéen au cinéma que les élèves de 3PP2 ont vu ce film. Loan a écrit la critique de ce très beau film, et c'était d'ailleurs le jour de son anniversaire.
Le lundi 28 novembre, la classe des 3PP2 du lycée Gustave Eiffel ont eu la chance de voir le film Les Combattants. Un film de Thomas Caillé, sorti en 2014, racontant la vie d'Arnaud, un jeune homme tranquille qui vient de perdre son père. Il se lance donc avec son frère dans la reprise de l'entreprise familiale de menuiserie. Il rencontre Madeleine, drôle de fille obsédée par la fin du monde et à la préparation à la survie. Il tombe amoureux d'elle et décide de la suivre dans un stage pour rentrer à l'armée. Les principaux rôles sont joués par Kevin Azéis alias Arnaud et Adèle Haenel dans le rôle de Madeleine Beaulieu. Ce film a plusieurs thèmes mais pose surtout la question de l'engagement et en particulier celui des jeunes. C'est pour cela que nous avons particulièrement aimé le film et nous vous invitons à aller regarder le film Les Combattants.
Merci Lohan, et nous vous informons que l'opération lycéen au cinéma continue au prochain trimestre avec les films La Nuit du Chasseur et Calab bénisse la France, toujours en partenariat avec le cinéma L'Opéra.
Dans cette partie de Radio Gustave, nous allons vous parler de la découverte professionnelle que suivent les troisièmes tous les vendredis dans les ateliers du lycée.
De l'horticulture à la pâtisserie en passant par la mécanique et la chaudronnerie, le programme, vous allez le voir, est très complet.
Tout de suite, commençons par la section horticole et l'interview de Monsieur Verbeck réalisée par Laurie Hugo.
Écoutons maintenant un cours d'horticulture. Merci Laurie Hugo, merci Monsieur Verbeck. Passons maintenant à la peinture carrosserie.
Guillaume a interviewé Monsieur Boulay qui lui a donné de nombreuses informations sur cette profession méconnue.
Bonjour Monsieur Boulay.
Bonjour Guillaume.
Pouvez-vous nous présenter votre matière pour Radio Gustave?
Donc ma matière est la peinture en carrosserie. Donc c'est une formation qui se déroule en 2 ans afin d'obtenir un CAP de peintre en carrosserie. À l'issue de leur formation, les futurs diplômés interviendront le plus souvent sur des véhicules abîmés suite à un accident. Ils devront refaire des rayures ou des bosses, mais le plus souvent, ils interviendront après le travail du carrossier.
Depuis quand enseignez-vous à Eiffel ?
Donc, je suis arrivé à la rentrée 2013, donc cela fait 3 ans et demi que j'enseigne au lycée Gustave Eiffel.
Est-ce un secteur qui recrute ?
Oui, car avec un parc automobile d'un peu plus de 30 millions de véhicules et 3000 entreprises spécialisées dans la carrosserie peinture, c'est un métier qui recrute. Et d'autant plus que d'autres métiers ont besoin de peintres, notamment les secteurs nautiques et aéronautiques.
Avez-vous un conseil à donner au troisième de manière générale ?
Donc déjà, si vous êtes passionné d'automobile, ce diplôme va certainement vous intéresser et contrairement aux idées reçues, ce métier est aussi destiné au public féminin car 22% des salariés sont des femmes. Quant aux autres, vous serez sûrement surpris des possibilités offertes par les métiers de l'automobile.
Eh bien merci pour toutes vos informations, les troisièmes vous remercient.
Eh bien merci d'être venu, puis je te souhaite une bonne journée.
Merci Guillaume et merci Monsieur Boulay.
autres filières, la restauration, M. Barry va nous présenter la spécialité cuisine et M. Rey, le service, des interviews que l'on doit à Yannick et Maëva.
Bonjour Monsieur Barré, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui avec les troisièmes ?
Donc aujourd'hui on prépare une compotée d'oignons pour un cocktail qui va avoir lieu la semaine prochaine pour 500 personnes. Donc ça leur a permis de voir un peu les taillages émincés et ciselés et puis après on va faire tout ce qui est cuisson compotée.
Depuis combien de temps enseignez-vous ?
Donc moi j'enseigne au niveau du lycée Gustave Eiffel depuis 4 ans. Avant j'étais professionnel dans des restaurants classiques et étoilés Michelin.
Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être cuisinier ?
Les professionnels, donc c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux, ce qui est compliqué au départ.
Merci d'avoir répondu à mes questions pour Radio Gustave.
Et ben merci Maëva et puis bonne continuation.
Bonjour Monsieur Rail, pour nous expliquer ce que vous faites avec les 3 PP2.
Donc aujourd'hui on a vraiment été sur de la découverte professionnelle, analyse sensorielle, donc ils vont goûter 2 produits, voir un exercice sur les épices, où ils vont devoir reconnaître, les goûter, les sentir. Et puis une analyse sur un petit produit mystère qu'ils vont reconnaître aussi. Donc voilà, toujours la vue, l'odeur et le goût.
Depuis combien de temps enseignez-vous ce métier ?
Alors je suis devenu enseignant en septembre 2013. Donc là je continue ma 4e année. Et avant ça j'étais dans le domaine professionnel. J'étais responsable de plusieurs points de vente à l'aéroport de Balmulhouse. J'étais également responsable communication dans un hôtel 4 étoiles. Au niveau du restaurant, de l'accueil-réception au niveau des clients, l'hébergement. J'ai un petit peu tourné et puis j'étais en lycée hôtelier, donc bac technologique, BTS. Et je suis parti derrière 3 ans en fac à Metz, donc licence, maîtrise et puis master d'hôtellerie. Voilà.
Pourriez-vous nous dire les qualités qui sont requises pour devenir serveur, s'il vous plaît ?
Alors déjà une bonne condition physique, puisque c'est un métier où on fait beaucoup d'heures, on est tout le temps debout. De l'humilité, se remettre en question très souvent, une tenue professionnelle adéquate aussi, le sourire. Le don de soi, la générosité, être présent pour le client également, et puis des connaissances professionnelles derrière aussi. Voilà, ça je pense que c'est les qualités. Enfin, j'avais un enseignant aussi, ça m'a marqué, qui m'a donné finalement les 3 mots-clés de ce métier, c'est plaisir, passion, partage, et je pense que c'est vrai. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut appliquer, même si c'est pas facile tous les jours, c'est vrai.
Merci d'avoir répondu à nos questions pour Radio Gustave.
Merci à vous également de m'avoir choisi. Ça a été avec plaisir d'avoir répondu à vos différentes questions. Et bon courage pour la suite.
Merci aux enseignants de restauration pour ces explications. Retournons maintenant aux ateliers pour visiter la section chaudronnerie que nous présente M. Leberg. Grâce à cette découverte professionnelle très complète, notre choix pour l'orientation l'année prochaine en CAP ou en bac pro se fera de manière plus informée. Merci aux enseignants du secteur professionnel de nous avoir donné les clés de ces différents métiers.
Vous écoutez actuellement Radio Gustave, la web radio du lycée Eiffel gérée par les 3e D dans le cadre de l'EPI.
Justement, en parlant de pays, nous allons maintenant parler de celui des 3 PP1 qui consiste à créer une mini-entreprise. Dans ce cadre, ils ont simulé des entretiens d'embauche avec de véritables professionnels du secteur. On écoute nos reporters, Julien et Tiffany, qui y ont assisté.
Maths, français, histoire, géographie, EMC, voilà les 3 matières que les 3e passent à l'écrit en loi pour le diplôme du DNB.
À chaque émission, les professeurs de ces disciplines ou des élèves vous parleront d'un point de leur cours. En histoire, l'étude des 2 guerres mondiales ont occupé notre début d'année. Nous allons maintenant faire un point révision pour le brevet sur un chapitre d'histoire.
En effet, Benjamin va maintenant nous parler de la première guerre mondiale et de ses conséquences. On l'écoute.
Merci Benjamin.
En plus de la Première Guerre mondiale, nous avons également étudié 2 autres chapitres liés à l'histoire du XXe siècle. Tout d'abord, nous avons étudié en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Puis nous nous sommes intéressés à la France défaite et occupés en étudiant le régime de Vichy, la collaboration et la résistance. Voilà ce qu'il faut en retenir selon nous.
La Seconde Guerre mondiale se déroule entre 1939 et 1945. Elle oppose les alliés, à savoir la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, aux forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Nous nous sommes donc demandé pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle considérée comme l'anéantissement et comme la France a-t-elle traversé cette guerre ?
La Seconde Guerre mondiale est importante tant par sa dimension planétaire que par sa violence. Il y a eu beaucoup de morts civiles et militaires, à cause des bombardements bien sûr, mais également à cause d'atrocités commises dans les camps de concentration et d'extermination. On peut dire que cette guerre est totale car tout le monde a été touché, sur toute la planète. En effet, on se bat en Europe, en Afrique, mais également dans le Pacifique. Par exemple, au Japon, le 6 et 9 août 1945, deux bombes nucléaires ont frappé les villes de Hiroshima et Nagasaki en tuant des milliers de personnes. La Seconde Guerre mondiale a aussi été marquée par le système concentrationnaire que l'on vient d'évoquer et le génocide organisé par les nazis. Un génocide, c'est la volonté de faire disparaître un peuple ou des personnes, généralement parce qu'ils sont considérés comme différents ou nuisibles. Ainsi, les nazis, dirigés par Hitler, veulent éradiquer les juifs, mais également les homosexuels, les tziganes et les handicapés. Ils créent alors des camps de concentration pour faire travailler les prisonniers jusqu'à l'épuisement et même souvent jusqu'à leur mort. Mais ils créent aussi des camps d'extermination où ils tuent des personnes dès leur arrivée, comme à Auschwitz, par exemple. D'ailleurs, dans cette ville polonaise, il y a à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination séparé par une forêt. Le fait de vouloir exterminer ces gens, c'est ce qu'on appelle la solution finale.
Entre 1939 et 1945, la France a connu plusieurs étapes passant de la collaboration du régime de Vichy à la résistance. Avant 1939, la France a construit la ligne Maginot pour empêcher les Allemands d'entrer sur son territoire. Mais les nazis font un détour par la Belgique et en un mois, ils gagnent la bataille. La guerre éclaire, Blitzkrieg en amont. Le maréchal Pétain demande l'armistice en juin 1940. C'est le début de l'État français. Nom du gouvernement dirigé par Pétain, celui-ci va alors collaborer avec le régime nazi et donc avec Hitler. À partir de ce moment, la France est divisée en deux parties. La zone libre gérée par le régime de Vichy au sud et la zone occupée par les Allemands au nord. Le général de Gaulle, parti à Londres, décide de résister à la fois aux Allemands mais aussi au maréchal Pétain. Il a créé les FFL, Forces Françaises Libres, qui se battent dans les colonies et notamment en Afrique avec également les FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, et qui tendent des embuscades, sabotages, guérillas sur l'ensemble du territoire français dans le but de perturber les Allemands et le régime de Vichy. On peut donc conclure en affirmant que la Seconde Guerre mondiale a donc été une guerre d'anéantissement, une violence extrême, puisqu'elle a entraîné la mort d'environ 60 millions de personnes dans le monde.
En français, nous avons commencé l'année en étudiant un genre littéraire, l'autobiographie. On écoute Adrien et Charles qui ont fait une synthèse sur ce genre.
Merci Charles et Adrien. À Maxence Dujoux pour les mathématiques, sous la direction de son professeur, M. Alaoui.
Bonjour M. Alaoui, je suis là aujourd'hui pour vous interviewer sur l'histoire des nombres. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots aux auditeurs de Radio Gustave ?
Je suis M. Alaoui, je suis professeur de maths sciences au lycée Eiffel, je suis physicien de formation. Alors dis-moi Maxence, qu'avons-nous appris ensemble ?
Nous avons découvert l'histoire du zéro et nous avons fait un survol rapide de l'histoire des nombres des Mayas aux Européens en passant par les Égyptiens.
Et qu'est-ce qui a retenu ton attention Maxence ?
Les Égyptiens qui utilisaient des symboles pour compter, par exemple le U à l'envers correspond à 10, la spirale fait 100, la guitare correspond à 1000.
Qu'as-tu découvert d'autre ?
Le nombre zéro a été inventé par un Indien, je crois qu'il s'appelait Brahma Gupta. L'interview est finie, merci pour cette discussion, au revoir Monsieur Alaoui.
Merci, au revoir.
Après ce programme complet, un moment de détente avec les rubriques personnelles, assurées par Hugo, Laurie, Corentin et Guillaume. Guillaume, c'est à toi de commencer.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui a été développé par DICE, un studio américain très bon pour ses jeux à la première personne, édité par EA Electronic Arts. Le jeu utilise le moteur Frostbite, qui va rendre l'image plus nette, mais surtout ce qui va rendre le jeu beaucoup plus réaliste et immersif, ce qui va améliorer l'expérience de jeu. Le jeu coûte environ 60€ sur le marché. Pour commencer, Battlefield 1 est inspiré de faits réels qui auront lieu il y a un siècle. Plus de 60 millions de soldats connurent la Grande Guerre. La campagne solo est divisée de 5 chapitres prenants, dont un prologue palpitant et magnifique qui montre la violence de l'époque. Le premier chapitre se nomme « Dans la boue et le sang », où les soldats britanniques doivent rejoindre le village de Cambrai en France. Nous incarnons Edwards, un jeune anglais qui avant la guerre était chauffeur. Dans ce chapitre, Edwards pilote un char en direction des tranchées en compagnie de l'infanterie. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu.
Il reste encore 4 chapitres que je vous laisse découvrir. Le second, des amis au placé, qui parle de l'aviation de l'époque. Le troisième, Avanti Savoia, une grande bataille sur les monts italiens. Le quatrième, l'estafette, une grande guerre navale. Et le dernier, Rien n'est écrit, qui parle de Laurence d'Arabie, qui lutte contre les Ottomans. Je vous conseille vraiment ce jeu, dû par sa bande sonore, son ambiance et son réalisme.
Merci Guillaume, et de plus ce jeu est en rapport avec le programme d'histoire de cette année. On écoute maintenant Hugo pour sa recherche sur un monument célèbre, la Statue de la Liberté.
Vous connaissez tous la Statue de la Liberté? C'est un monument très important de la ville de New York. Saviez-vous qu'elle fut construite en France? La statue fut dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis. La Statue de la Liberté est sur l'île Liberty Island, au sud de Manhattan. La construction de la statue a été fabriquée par Lucien Eiffel. Et oui, celui qui a donné son nom à notre lycée. Si vous allez un jour à New York, lui pourrait donc entendre parler de Lucien Eiffel.
Merci Hugo. C'est ainsi que se termine notre deuxième émission de Radio Gustave. Nous espérons qu'elle vous a plu et vous donnons rendez-vous fin février pour une autre émission. À bientôt à tous. Thank you.